I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, intriga, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love. Une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Et si pour certaines, devenir maman n'était pas une évidence? Et si on levait le tabou sur le fait que parfois ce n'est même pas évident du tout? Morgane a désiré devenir maman pendant un an avant de tomber enceinte, une année qui lui a paru bien trop longue. Elle a ensuite beaucoup apprécié sa grossesse et ne faire qu'un avec son futur enfant. Elle aurait d'ailleurs aimé que cette grossesse dure encore un moment jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'accueillir. Et puis Morgane a accouché et elle n'a absolument pas éprouvé la vague d'amour qu'on lui promettait depuis toujours. Au fil des mois, l'attachement avec son enfant ne s'est pas fait. Au fil des mois, elle a sombré dans ce qu'on appelle la dépression postpartum. Dans cet épisode, Morgane nous raconte tout son parcours depuis sa grossesse jusqu'au diagnostic de sa maladie. Elle nous parle de ses émotions, de sa volonté d'en finir et comment elle a finalement réussi à remonter la pente et à accepter que sa maternité était différente de ce qu'elle imaginait. Bonne écoute. Bonjour Morgane, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors depuis combien de temps tu es avec ton chéri ?
Alors ça va faire quasiment 15 ans cette année qu'on est ensemble.
D'accord. Et à quel moment le sujet de la maternité est arrivé au sein du couple ?
Alors, on était mariés depuis quelques années. Donc, on s'est mariés en 2013. Et puis, en fait, il y a le frère de mon mari qui a eu un bébé. Et là, ça a commencé voilà, à se poser. Enfin, la question a commencé à se poser. On savait depuis toujours qu'on voudrait des enfants. Moi, je suis très, très maternelle. J'aime beaucoup les enfants. Donc, je m'étais toujours imaginée maman. Et puis voilà, quand on a eu à peu près 26-27 ans, on s'est dit, ça y est, c'est le moment de se lancer. Et puis on a un petit peu attendu notre bout de chou, puisqu'il a mis un an à venir s'installer dans mon ventre. Donc du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais super heureuse.
Comment t'as vécu le fait d'attendre un an ?
Ça a été hyper dur. Je suis de nature très très impatiente. C'est vrai que je m'étais pas préparée à attendre si longtemps, même si je sais qu'on peut attendre bien plus que ça. Mais une année, quand on sent qu'on est prête et que ça y est, c'est le moment, ça paraît quand même terriblement long. Chaque fois que les règles arrivent, voilà, beaucoup de déceptions. Et puis au final, il est arrivé un moment où finalement on l'attendait peut-être même presque plus, on était tranquille en vacances et puis ça s'est fait comme ça.
Vous n'aviez pas fait d'examen particulier ?
Non, pas encore. Justement, on s'était dit qu'au retour de ces congés, on irait faire des examens pour voir si tout allait bien. Je pense que ça m'a peut-être un peu libérée au final.
Et alors, comment t'as accueilli la nouvelle ?
Hyper heureuse. Je pense un peu stressée aussi quand même, surtout les trois premiers mois, puisque on parle quand même beaucoup des risques de fausse couche. Donc j'avais, comme on l'avait beaucoup attendu, j'avais quand même du mal à me projeter, à me dire que 9 mois plus tard, il y aurait un bébé.
D'accord.
Donc j'étais assez stressée. Mais par contre, après, je l'ai senti bouger très très rapidement dans mon ventre. Et du coup, les moments voilà, où je le sentais bouger, où on était en fusion, j'ai adoré la grossesse pour moi. C'était une période magique. Le fait d'être en fusion comme ça avec mon bébé, d'avoir cette petite relation un peu rien qu'à nous, avec aussi le papa qui venait intervenir dans tout ça, mais c'était vraiment pour moi magique, et à tel point que j'avais pas envie d'accoucher.
Ah oui ?
Ouais. Donc c'est vrai qu'en approchant de la fin de la grossesse, de plus en plus on me disait « Ah mais tu dois avoir hâte d'accoucher, de le rencontrer », et en fait j'osais pas dire que moi non, j'avais pas envie d'accoucher. J'avais envie de garder mon petit bébé rien que pour moi, dans mon ventre. En plus, j'étais très coucounée à ce moment-là. Tout le monde s'occupait bien de moi. Enfin, j'étais... Je sais pas, je pense qu'il y a une figure un peu divine quand même de la femme enceinte où tout le monde a beaucoup d'attention pour elle. Elle est un peu mise sur un piédestal. Et moi, en fait, j'étais bien dans cette situation-là. Je me portais bien. Mon bébé était en pleine forme. Enfin, en fait, je voyais pas... quasiment pas l'intérêt d'accoucher, quoi. Et du coup, déjà, à ce moment-là, j'ai ressenti un petit peu de culpabilité de me dire, ben non, je peux pas dire que j'ai pas envie d'accoucher, puisqu'on est enceinte pour faire un bébé, pas juste pour être enceinte. Donc voilà, j'ai commencé déjà à taire un petit peu mes émotions à ce moment-là.
T'en parles à personne du fait que t'aimais trop cette grossesse et que tu voulais pas forcément que ça s'arrête?
Alors, le fait que j'aimais ma grossesse, ça... Tout le monde me voyait de toute manière, je rayonnais. Mais le fait que je voulais pas que ça se termine, non, j'ai pas osé le dire. Parce que je me souviens d'un cours de préparation à l'accouchement où la sage-femme a dit « Mais on est enceinte pour faire un bébé, enfin, forcément vous avez envie d'accoucher. » Et là je me suis dit « Ce que je ressens n'est pas normal. » Donc du coup je me suis pas autorisée à en parler.
Et ton accouchement alors, comment ça s'est passé?
L'accouchement en tant que tel s'est super bien passé. Donc j'ai accouché une dizaine de jours avant le terme. Je l'ai un peu senti venir en fait ce jour-là, j'étais en pleine forme. Enfin vraiment, alors que je me traînais quand même avec mes 20 kilos en plus depuis quelques jours, ce jour-là j'ai dansé dans l'appartement, j'ai été faire une longue balade. Enfin je crois qu'au fond de moi je sentais que quelque chose se mettait en place. Et puis en fait, on est parti à la maternité parce que j'ai commencé à perdre du sang. Donc on nous avait dit que quand on perd du sang, que ça fait un peu comme des règles, il vaut mieux aller faire un contrôle pour voir ce qui se passe. Donc on y est allé et il n'y avait rien d'alarmant en fait, c'était le col qui commençait à bouger qui faisait que je perdais du sang. En revanche, ils ont fait un test qui a montré qu'il y avait potentiellement une fissure de la poche des os. Donc du coup j'ai été gardée à la maternité et en fait pendant la nuit les contractions ont commencé à se mettre en place. Et le lendemain, dans la journée, pareil, ça continuait. Et puis, quand j'étais, je ne sais plus, à 5-6 de dilatation, donc on m'a posé la péridurale. Et puis là, c'était un moment vraiment suspendu dans le temps, magique. En fait, la nuit tombait et on est resté dans l'obscurité avec mon mari. On a discuté des heures et des heures, on s'est refait un peu le fil de notre histoire. On a vraiment eu une discussion... hyper cool, hyper ouverte. Et voilà, on attendait paisiblement, tranquillement. Il y a eu des moments drôles aussi, un moment... Donc j'ai un petit peu trop appuyé sur le bouton de la péridurale et à un moment, je sentais plus ma jambe, elle s'est mise à tomber sur le côté. Enfin, voilà. C'était assez drôle. Et puis au final, quand il a fallu pousser, finalement, tout s'est fait très très naturellement. J'ai senti beaucoup beaucoup de force en moi. Alors que pourtant je me disais non mais j'y arriverai jamais, je suis pas assez forte pour ça et tout. Oui. Et là je sais pas, je me suis sentie grisée presque de ce moment-là. Et vraiment du coup ça a été magique jusqu'au moment où mon fils est né.
Oui, c'est ce que tu disais, j'ai adoré mon accouchement jusqu'au moment où j'ai accouché.
Ouais.
Et pourquoi du coup?
Du coup, donc quand Samuel est né, donc quand on me l'a mis sur le ventre. Là, ce que j'ai ressenti, c'est déjà du soulagement, en fait. De « ça y est, c'est bon, tout le travail est terminé, j'ai réussi à le faire, good job !» Mais par contre, ce bébé, en fait, je le reconnaissais pas comme mon enfant. Et je m'étais toujours imaginé cet élan d'amour indicible qui est souvent décrit quand même. En tout cas, qui reste l'image d'Épinal du moment de l'accouchement. Et le fait de ne pas ressentir cet amour intense pour mon fils tout de suite, ça a été une énorme déception.
Parce que toi, tu l'as vu, qu'est-ce qui s'est passé?
Je l'ai vu, déjà, il avait la tête un peu tournée sur le côté, donc j'arrivais pas bien à voir son visage. Et en fait, j'osais pas le bouger, le manipuler, enfin, je me sentais complètement gauche, complètement limite bloquée. Enfin, moi qui avais beaucoup eu l'habitude de m'occuper de bébé sans aucun souci, là, c'était mon propre fils et j'arrivais pas à le toucher, à le manipuler, enfin, je savais pas comment faire. Et j'avais super peur, en fait. J'étais vraiment paralysée par la peur de pas savoir comment m'y prendre, de pas être une bonne maman, enfin, ça m'a tout de suite envahi, cette peur, en fait.
Ah, c'est des moments où on t'a posé ton enfant, ouais. T'as pensé à tout ça.
Ouais. C'est limite comme si, d'un seul coup, le poids des responsabilités m'était tombé dessus. Vraiment, immédiatement. je me suis dit, ça y est, il faut que je m'en occupe, il faut que je sois une bonne maman. Ça m'a tout de suite écrasée et ça m'a vraiment empêchée de créer tout de suite du lien avec lui.
Et alors, les jours d'après, est-ce que ça s'est apaisé un petit peu? Est-ce que tu as pris tes marques?
Pas vraiment. Donc déjà, le lendemain, j'ai fait face à toutes les douleurs physiques du postpartum auxquelles j'étais pas du tout préparée. Donc j'ai eu une déchirure, il y a eu des points qui ont été recousus un petit peu trop serrés, il y a eu un œdème de la vulve, il faisait très très chaud, il faisait 40-45 degrés dans l'hôpital. J'ai aussi mes jambes, j'ai fait une rétention d'eau énorme après l'accouchement, le truc d'habitude ça ne se passe pas dans ce sens-là. Et du coup, la position debout était une souffrance ultime pour moi, enfin, avec tout ça. Et j'ai même fait un malaise vagal, en fait, dans la journée qui a suivi. Donc, en fait, j'étais tellement dans ma douleur physique que j'étais pas présente émotionnellement et physiquement pour mon bébé. En plus, sur l'allaitement, j'étais pas tout à fait certaine, en fait, au début de vouloir allaiter. Et au final, je m'étais dit, bon, bah, allez, je vais au moins essayer. Et pareil, je me suis mis une pression énorme avec l'allaitement. J'ai tout de suite eu des crevasses, enfin, au bout de la deuxième ou troisième tétée, des crevasses assez importantes. Et j'étais pas préparée à ça. Encore une fois, lors des cours de préparation d'accouchement, on nous a dit, si ça fait mal, c'est que vous vous y prenez pas bien. Et j'avais mal. Donc je me suis dit, ok, je suis une mauvaise mère, j'y arrive pas, je suis nulle, enfin voilà.
Tout ça, ça se passait encore à la maternité à ce moment-là.
Ouais, c'était dès le lendemain de l'accouchement.
Et est-ce que t'as pu demander de l'aide ou des conseils à des personnes du service hospitalier?
Ouais. Alors du coup, donc ça c'était le premier jour et dès le deuxième jour, toute la matinée j'ai pleuré.
D'accord.
Et donc là, effectivement, il y a des sages-femmes qui sont venues me voir, des puéricultrices. Elles m'ont beaucoup fait parler. Elles m'ont expliqué que l'allaitement, si j'étais trop stressée, si je le sentais pas, il valait mieux peut-être passer au biberon, que ça ferait pas de moi une mauvaise mère, que juste, il valait mieux que je nourrisse mon fils en étant sereine plutôt qu'en pleurant, en détestant ça. Je regrette malgré tout qu'on m'ait pas un peu plus encouragée sur ce sujet-là. Mmh. En tout cas, j'ai trouvé quand même, oui, des oreilles attentives. Je pense malgré tout que les signes de la dépression qui a suivi étaient déjà là. Après, c'est un moment difficile parce qu'avec la chute des hormones, le baby blues, c'est quelque chose quand même d'assez violent. Donc faire la différence entre un baby blues et une dépression, je pense que c'est pas évident. Mais malgré tout, si j'avais pu être orientée vers une psychologue, un ou une psychologue à ce moment-là, ça aurait pu être certainement bénéfique.
Et donc le retour à la maison, comment ça s'est passé?
Retour à la maison, pas terrible non plus. En fait, quand je suis rentrée dans ma maison, j'avais l'impression de plus tellement reconnaître les lieux. Enfin, c'est comme si j'étais un peu une personne différente. À un moment, je me suis croisée, mon reflet dans le miroir, avec mon bébé dans les bras. Et je l'ai trouvé si minuscule. Et je me suis dit, mais c'est mon bébé, je dois m'en occuper. Enfin, et à ce moment-là, je le vivais vraiment comme une obligation, comme une dette, comme un devoir. Et pas comme un plaisir, quoi. Et du coup, une fois rentrée à la maison, on a une sage-femme qui est venue le lendemain. Et là, encore une fois, crise de larmes pendant toute la matinée. Vraiment, enfin, j'étais pas bien. Je pense que, je te disais tout à l'heure que j'avais pas envie d'accoucher, je pense que j'en voulais un petit peu à mon fils. D'avoir sans doute précipité un tout petit peu les choses, même s'il s'agissait que d'une dizaine de jours. Mais je lui en voulais beaucoup d'être arrivée plus tôt que ce que moi j'avais prévu. Et en fait, c'était ça tout le truc. C'est qu'en fait, c'était lui, maintenant, qui guidait notre vie. Et c'était hyper dur pour moi de me dire que les choses ne se passent pas comme moi je le prévois. Je suis un peu maniaque du contrôle. Et là, t'es dans un moment où tu dois lâcher prise. Et j'étais pas prête pour ce lâcher prise. Donc voilà, j'étais vraiment pas bien. Après, cette sage-femme a été exceptionnelle. Elle est restée le temps qu'il a fallu, elle m'a rassurée. Elle m'a expliqué que, ce petit bébé, c'était pour lui aussi très difficile. Qu'il passait de son monde aquatique, tranquille, dans mon ventre, à ce monde qu'il connaît pas, qu'il avait tout à apprendre. Mmh. Et qu'il fallait, en fait, qu'on se rencontre l'un et l'autre. Et qu'il fallait du temps pour ça, et qu'il fallait qu'on se laisse ce temps-là. Donc voilà, elle m'a beaucoup rassurée et après ça, j'ai commencé à m'apaiser un petit peu, à trouver mes marques. J'ai eu la chance aussi que mon mari prenne un mois de congé pour qu'on puisse tous atterrir le plus tranquillement possible. Malgré tout, ces crises de larmes sont revenues en fait assez régulièrement dans le temps. Il y en a eu d'autres quand Samuel avait un mois à peu près, quand il avait trois mois à peu près.
Et elles étaient déclenchées par quoi ?
En fait, il suffisait d'un petit grain de sable dans le rouage. D'un moment où moi j'avais besoin peut-être d'être au calme, d'être tranquille, et où Samuel par exemple à ce moment-là n'avait pas envie de faire la sieste. Vraiment, il suffisait de pas grand-chose. Juste, je pense que je refoulais tellement mes émotions qu'en fait, des moments, j'explosais, tout simplement. Et du coup, dans ces cas-là, j'avais des pensées très très sombres. Le regret d'être mère. Le sentiment de ne pas aimer mon bébé, l'envie de le rendre, tout ça me traversait, et en fait j'essayais tellement de le refouler que des fois j'avais même des douleurs physiques. J'avais mal dans la gorge, dans le ventre, j'étais vraiment vraiment pas bien.
Et t'en parlais à quelqu'un autour de toi, à ton mari, ta famille, tes amis?
Donc du coup j'ai toujours pu tout dire à mon mari. Ça, je pense que c'est vraiment la base de toute manière dans un couple, quand tu fais un enfant, de pouvoir tout se dire. Donc je lui ai jamais caché mes difficultés, je lui ai jamais caché que des moments je me disais que j'aimais pas Samuel, même si c'était hyper douloureux pour lui de me voir comme ça. J'en ai beaucoup parlé à ma sœur aussi, à des amis. Enfin, j'ai vraiment essayé d'être le plus transparente possible par rapport à ce qui me traversait. Malgré tout, en fait, la difficulté dans le diagnostic de la dépression postpartum, en tout cas dans mon cas, c'est que les crises allaient et venaient. En fait, des moments, tout allait bien, je m'occupais parfaitement de mon bébé, j'avais aucun souci, j'étais contente d'être avec lui, et en fait, par moments, je sombrais, mais complètement. Et comme c'était pas constant, en fait, on se disait, jusqu'à 3-4 mois, en fait, tu dis, c'est les hormones, c'est la fatigue, c'est le stress, c'est tout ça. Et en fait, il y avait toujours une bonne raison pour l'expliquer. Et jusqu'à ce que Samuel ait 8 mois. Et donc là, on a fait nos premières vacances en famille. Donc, encore une fois, j'avais beaucoup d'attentes sur ces vacances. C'était son premier Noël. On est parti le fêter à la montagne. Et je m'imaginais, premier Noël de Samuel, ça va être fantastique. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Samuel était malade, il avait une poussée dentaire, il dormait quasiment pas. Et en fait, là, j'en pouvais plus, quoi. Je dormais plus, déjà, alors que j'étais hyper fatiguée. Du coup, le matin, je me levais plus, alors que Samuel se réveillait très très tôt. Et puis là, en fait, je me disais, mais pourvu qu'il se réveille pas demain matin. Ouais. Et là, j'ai eu, encore une fois, la présence d'esprit de le dire à mon mari. Et en fait, au retour de ses vacances, il m'a envoyé un article sur la dépression postpartum, où il y avait toute une liste de symptômes. Et quand je l'ai lu, j'ai vu que je cochais toutes les cases. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, il faut faire quelque chose.
Ouais. T'avais jamais entendu parler de ça avant ?
Non, j'ai pas souvenir. On avait parlé un petit peu de baby blues lors des cours de préparation à l'accouchement. Et même pour te dire, à ce moment-là, je m'étais dit, ouais, pas pour moi, je suis hyper optimiste. Enfin, vraiment, il n'y a aucune raison que ça m'arrive, quoi. Rien que pour le baby blues. Donc, si tu veux, la dépression postpartum, je m'y attendais vraiment pas du tout.
Et qu'est-ce que te disait ton entourage, justement, quand tu leur parlais de tout ça ?
Alors, je crois qu'à ce moment-là, au moment où j'ai été diagnostiquée, j'avais un peu arrêté d'en parler. Je me souviens plus très très bien. Mais en tout cas, je sais que, mis à part les gens à qui j'avais confié mes difficultés, donc mon mari, ma sœur, ma meilleure amie, pour les autres, c'était complètement invisible. En fait, dans ces cas-là, t'as une carapace, t'as un sourire de façade qui fait que personne ne se rend compte de rien. Ou bien que personne ne se rend compte. Je sais pas vraiment. Je sais pas si j'étais vraiment une excellente actrice, ou si c'est que peut-être la difficulté maternelle dérange encore un petit peu. Avouer que t'y arrives pas à ce moment-là, alors que ce que tout le monde attend de toi, c'est que tu rayonnes de bonheur, c'est hyper compliqué. Et je pense que ça dérange encore. Je pense qu'il y a aussi encore beaucoup, beaucoup de préjugés sur la dépression, notamment la dépression postpartum. J'en avais moi-même par le passé. Je me disais, les gens qui sont dépressifs, peut-être que des fois, ils se complaisent un peu dans leur malheur. Peut-être que des fois, il suffirait de se dire, allez, on se met un petit coup de pied aux fesses et puis on essaye d'aller mieux. Et là, je me suis rendu compte que la dépression postpartum, c'est une maladie avec des dérèglements chimiques dans le cerveau. Et qu'en fait, il ne suffit pas de le vouloir pour aller mieux. C'est un moment où tu as vraiment besoin d'aide et qu'on te prenne en charge, quoi.
Donc tu reçois cet article et là, alors qu'est-ce que tu fais tu poses un diagnostic par toi-même pour le moment.
Ben, du coup, on a été donc chez notre médecin traitant. Donc mon mari m'a accompagnée. Là, elle m'a prescrit des antidépresseurs et elle a fait une lettre pour m'adresser à une psychiatre. Et là, en fait, commence une grosse errance médicale. Parce que donc ça y est, j'ai le diagnostic. J'ai envie d'avancer, d'aller mieux. Sauf que délai pour obtenir un rendez-vous chez le psychiatre, t'as au moins un mois. Enfin, en tout cas, dans ma ville. Et puis, en fait, j'ai jamais trouvé de psychiatre avec qui je pouvais parler. À chaque fois, premier rendez-vous, ok, on revient un peu sur l'histoire, on confirme le diagnostic. Mais les rendez-vous d'après, on parlait quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, madame, on va augmenter votre dose d'antidépresseur.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Donc j'en ai vu 3 différents. Alors peut-être que j'ai eu pas de chance, hein. J'imagine qu'il y en a des très bien. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé le soutien psychologique nécessaire à ce moment-là. Donc en fait, au bout de plusieurs mois à changer de psychiatre comme ça, je me suis dit, ok, il faut que je me prenne en charge par moi-même, il faut que je trouve quelque chose d'autre.
Ok.
Et donc c'est là que j'ai commencé à aller voir une psychologue. Et c'est là que ça a commencé en fait à aller vraiment mieux, quoi.
Et en parallèle, tu prenais les médicaments, les antidépresseurs ?
Ouais.
Donc ça, comment ça s'est passé pour toi en termes purement chimiques ? Quels ont été les effets sur ton quotidien ? Est-ce que tu as vu que tout de suite, tu te sentais apaisée ?
Alors, pareil, les antidépresseurs, je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous autour de tout ça. Au début, je voulais pas les prendre, quoi. Enfin, j'avais tellement honte de me dire que j'étais obligée d'en prendre. Et j'avais aussi super peur de plus être moi-même, d'être un peu shootée. Et au final, non, c'est pas du tout comme ça. Au final, ce que j'ai ressenti, c'est que je me suis un peu retrouvée. Déjà, j'ai retrouvé un peu d'énergie, là où j'en avais plus du tout.
Moins de sensations de fatigue.
Ouais, okay. Moins de fatigue, une humeur un peu plus stable. Et en fait, je pense que l'antidépresseur m'a donné la bouée nécessaire pour pouvoir aller de l'avant en termes de psychothérapie. Par contre, effectivement, il y a des effets secondaires. Il faut bien compter 15 jours, 3 semaines aussi avant qu'ils fassent effet. Donc au début, c'est dur parce qu'on les prend, alors que déjà, c'est dur de les prendre. Et en plus, on voit pas de changement. Mais après, effectivement, je me suis sentie mieux. Et par contre, en termes d'effets secondaires, t'as une addiction, quoi. Clairement, j'ai eu aussi un petit peu une mémoire qui fonctionne un petit peu moins bien. Voilà, le cerveau qui tourne un petit peu plus au ralenti. Mais pour autant, après, j'ai repris le travail et ça m'a pas empêché de travailler par la suite.
Donc pendant cette période, t'as arrêté de travailler un moment
ou... Ouais. Du coup, sur l'année 2018, en gros, un peu avant les 1 an de Samuel, j'ai été arrêtée pendant quasiment la moitié de l'année. D'abord, ça a été un arrêt d'une semaine, et puis après 2 semaines, et puis après on m'a dit non, là, il faut vraiment vous arrêter. Donc un mois, et puis un deuxième mois. Et au final, voilà, j'ai fait comme ça la moitié d'une année. Au bout d'un moment, j'ai repris en mi-temps thérapeutique.
Mais alors, qu'est-ce qui était écrit sur les raisons de l'arrêt maladie ? C'était écrit clairement dépression postpartum ?
Alors, certains avaient la délicatesse de mettre d'autres choses, je sais plus, fatigue extrême, ce genre de choses. Mais oui, d'autres ont mis dépression postpartum. Après, je ne l'ai jamais caché non plus à mon employeur.
Et du coup, quand tu étais arrêtée, ton fils était à la crèche ?
Il était chez la nounou, ouais.
Ok.
Effectivement, parce que j'avais vraiment, vraiment besoin d'être seule avec moi-même. Donc du coup, pendant ce temps-là, ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire des activités que j'aurais jamais fait toute seule, comme aller au ciné ou au resto toute seule.
D'accord.
Et en fait, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je faisais aussi pas mal de balades, j'essayais vraiment de sortir. J'ai commencé à avoir aussi un petit peu du monde, quand j'ai été arrêtée, forcément, il a fallu le dire un petit peu aux gens autour de moi. Et là, tout le monde m'a dit « Ah, si tu veux, je peux venir passer l'après-midi avec toi. » Et donc, j'avais un emploi du temps, en fait, hyper chargé, alors que je ne bossais pas. Mais j'avais vraiment besoin de ne pas être avec mon bébé, en fait. Parce que dès que j'étais avec lui, c'était... Bah, les émotions étaient trop fortes, quoi. C'était...
Tu ressentais quoi ?
Je ressentais beaucoup, beaucoup de culpabilité. Il m'a fallu vraiment un long moment pour me dire que c'était pas de ma faute et que j'en faisais pas exprès d'avoir ce genre de pensée pour lui. Parce que bah, les pensées que j'avais étaient tellement horribles, quoi, de me dire que je l'aimais pas, que je le regrettais. En fait, il m'a vraiment fallu du temps, ouais, pour accepter que c'était pas vraiment moi qui parlais, que c'était la maladie, que c'était tout ce qui m'arrivait. De me dire aussi que ouais, je faisais pas exprès de détruire ma famille, quoi. Enfin, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment le sentiment que j'avais. Voilà, j'avais une culpabilité, enfin, dans la dépression postpartum, il y a une culpabilité qui est vraiment excessive, quoi. Enfin, c'est quasiment de l'autoflagellation par pensée à longueur de journée, quoi.
Est-ce que tu trouvais d'autres, enfin, des informations là-dessus, d'autres femmes qui avaient vécu la même chose ?
À ce moment-là, j'ai pas forcément cherché, en fait. Je sais pas si la parole était aussi libérée à ce moment-là. Enfin, tu vois, les podcasts et tout, j'ai l'impression que ça a commencé à sortir plus ou moins dans ce moment-là, mais c'était vraiment le tout début. Moi, je connaissais pas encore. Et puis, enfin, j'avais tellement l'impression d'être seule au monde, en fait, que j'ai même pas eu le réflexe de le faire. Et tu vois, par exemple, l'association Maman Blues, donc qui accompagne les mamans qui sont dans ce genre de difficultés. Je l'ai découverte au moment où j'ai lancé mon compte Instagram pour raconter ma dépression. Donc j'ai trouvé ça tellement fou de me dire que j'ai pas été informée sur cette association qui est d'utilité publique dès le moment où je suis sortie de la maternité, quoi. Parce que sans doute que les choses auraient été bien différentes si j'avais pu être plus accompagnée et plus sensibilisée dès le début.
Et alors, comment a évolué ton ressenti de maman envers ton petit garçon ? Tu disais que tu avais été voir une psychothérapeute ?
Ouais, donc j'ai été voir une psychologue, donc j'ai entamé une thérapie avec elle. Donc on est revenu hein, sur tout ce qui s'était passé, sur cet accouchement que j'avais pas si bien vécu que ça, sur ces premiers mois, sur cette culpabilité. On est revenu aussi sur mon histoire familiale. Qui était un petit peu lourde et qui a beaucoup pesé dans ses débuts dans la maternité. Et puis voilà, petit à petit, en fait, un pas après l'autre, quoi. Vraiment, c'est hyper long. Mais il y a un moment où, en fait, tout finit par s'emboîter. Et puis un jour, on a un sourire en plus. Un jour, on va rigoler. Et en fait, petit à petit, on arrive à recréer des choses. Le lien avec Samuel, ça reste une relation très singulière. Il est très très accroché à son papa, puisque c'est son papa qui s'est beaucoup occupé de lui. Donc au final, je suis pas la maman que je pensais être, mais je suis une autre maman plutôt cool, en fait. Je suis plus la maman qui a envie de rigoler avec lui, qui a envie de sauter sur le canapé. Je pensais être une maman très maternante, et au final, c'est pas ça, mais c'est pas grave. J'ai fini par l'accepter. Et donc oui, il y a eu la psychothérapie qui a été hyper importante. On a aussi mis en place un suivi familial dans un centre médico-psychologique de la petite enfance. Donc il y en a un à Bourg-la-Reine, donc dans les Hauts-de-Seine, qui s'appelle L'Aubier. Une équipe vraiment fantastique, en fait. On a été suivi par une pédopsie et une éducatrice pour jeunes enfants.
Donc c'est quoi exactement ce lieu ?
Donc c'est un lieu qui accompagne quand il y a des problèmes... ça peut être des problèmes d'attachement avec la maman, des dépressions postpartum, des angoisses ou des problèmes psychologiques de l'enfant, parce que ça va, je crois, jusqu'à 3 ou 6 ans, je sais plus. Et en tout cas, on y allait de manière régulière. Alors au début, c'était une fois par mois, et puis après, vu la situation, on y était tous les 15 jours, puis une fois par semaine, parce que quand Samuel a eu 1 an à peu près, du fait que moi j'étais très très mal et que lui est très très connecté à mes propres émotions. Dès qu'il avait une émotion, en fait, il se tapait la tête par terre. Donc on a senti qu'il était perturbé par ce qui nous arrivait. Et donc on a été accueillis dans ce centre-là, et elles nous ont beaucoup beaucoup aidés. Donc on y allait tous les trois, en famille, donc avec mon mari Adrien et puis Samuel. Et donc, en fait, ben, on est revenu, encore une fois, sur toute cette histoire, tout ce qui nous est arrivé. J'ai pu dire même les choses les plus terribles devant Samuel. Mais toujours, en fait, avec cet accompagnement très enveloppant, cette manière de verbaliser à la fois de la pédopsie et de l'éducatrice. Et en fait, on a vu très, très rapidement des gros progrès chez Samuel. Très rapidement, il a arrêté de se taper la tête par terre. Ça allait beaucoup mieux. Adrien aussi, donc mon mari, a aussi pu, lui, exprimer sa douleur, parce que ça a été aussi très très dur pour lui. Ce qu'il en dit aujourd'hui, c'est qu'à un moment, il m'a perdu. J'étais plus moi-même, quoi. J'étais un fantôme qui vivait avec eux. Donc ça a été aussi compliqué pour lui. Donc voilà, on a tous trouvé une écoute et beaucoup de bienveillance dans cet endroit. Et je pense que ça a beaucoup contribué aussi à la guérison.
Et ça aurait pris combien de temps alors pour que tu remontes la pente ?
Au final, il a fallu 2 ans.
2 ans.
Pour que je me sente vraiment mieux. Et les 2 ans de Samuel coïncident avec le moment où on a vraiment commencé à réduire les doses d'antidépresseurs.
Ok. Et aujourd'hui, t'en prends encore des antidépresseurs ?
Non, ça y est, c'est fini. Donc j'ai fini là en décembre dernier. Donc j'ai été 18 mois sous antidépresseurs. La décroissance a duré 9 mois, parce que j'étais arrivée à une dose assez importante, et puis on a vraiment fait ça très très progressivement, très lentement, pour être sûr que ça se passe bien. Et pour autant, même la dernière étape, qui a été donc de supprimer complètement l'antidépresseur, a été hyper dure physiquement. Mon corps réclamait sa dose, en fait. Donc pendant une dizaine de jours à peu près, j'avais des vertiges toute la journée. Voilà, c'était vraiment le manque physique, parce que je savais que psychologiquement ça allait et que ça allait bien se passer, mais juste ouais, ça reste quand même malgré tout assez difficile. Et du coup, avant de pouvoir remonter la pente, il y a quand même eu le moment où j'ai vraiment touché le fond. Donc ça, c'était en décembre 2018. Donc ça faisait 1 an que j'avais été diagnostiquée. J'avais eu une petite période à la rentrée, à l'automne, quand Samuel avait commencé à marcher, où ça allait mieux, en fait. Enfin, je m'émerveillais de le voir marcher, d'avoir une relation avec lui qui se construisait un petit peu plus. Et puis, en fait, les fêtes de Noël qui arrivaient, cette date anniversaire aussi de ses premières vacances à Troyes, où j'avais vraiment sombré, ben, ça a fait remonter toutes mes angoisses. Et là, j'ai vraiment, vraiment touché le fond. Là, en fait, j'en étais arrivée à la conclusion que c'était pas Samuel qui devait disparaître, mais c'était moi. Donc voilà, j'ai vraiment voulu mourir. J'ai eu la présence d'esprit de le dire à mon mari. Et là, encore une fois, toute l'équipe médicale autour de nous s'est mise en route. Donc voilà, j'ai eu beaucoup beaucoup de rendez-vous, j'ai pu beaucoup beaucoup parler sur ce que je ressentais, encore une fois, y compris devant Samuel, et en fait, je sais pas, j'ai l'impression, enfin, même si je le souhaite à personne, mais j'ai l'impression que d'avoir touché le fond, j'ai pu pousser et remonter à la surface. Et c'est là que tout a fini par s'emboîter dans mon esprit et que j'ai commencé à aller mieux vraiment, quoi, à me retrouver, enfin plutôt à me trouver. J'ai vraiment la sensation d'une renaissance à ce moment-là.
Est-ce qu'il y avait des moments précis où tu étais mal, par exemple le matin, l'après-midi, où ça pouvait arriver à n'importe quand ? C'était constant ? Ouais.
Non, ça pouvait vraiment arriver à n'importe quel moment de la journée. Mais ce moment-là, vraiment, enfin, le moment le plus dur, j'étais mal, H24.
D'accord.
Vraiment, toute la journée.
Tu restais au lit
Ouais, je me levais pas. Si je me levais, je végétais complètement. Et puis en fait, ton esprit dans ce moment-là n'est jamais en repos. T'as ces pensées qui tournent en permanence dans ta tête. De « je suis toxique pour eux, il faut que je disparaisse, comment je vais faire ? Ah ok, je vais faire comme ça. » Enfin, c'est vraiment, ça t'emprisonne en fait, en permanence.
Et tu disais que t'en avais parlé tout de suite à ton mari, c'est les idées noires qui sont arrivées par exemple dans la journée, le soir il est rentré, tu lui en as parlé immédiatement ?
Ouais, c'est ça. Il y a une journée en particulier où j'avais vraiment envie de passer à l'acte. Et le soir, je lui ai dit, non, mais là, c'est plus possible, quoi. Enfin, je veux plus. Du coup, voilà, on a mis en place certaines choses. Il a vidé l'armoire à pharmacie, par exemple, pour que je puisse rien faire, quoi.
Et est-ce que vous avez mis en place aussi des précautions envers Samuel
à ce moment-là,
pas être seul avec lui ou...
Ouais. En fait, du coup, c'est tombé sur les vacances. Donc oui, j'étais jamais seule, au final. Samuel, on a pu le laisser quelques jours aussi chez ma mère. J'ai pu aller voir mes meilleures amies avec Adrien, voilà, essayer de retrouver un peu goût à la vie. Et puis voilà, c'est en revenant où là, à nouveau, je sentais que non, ça allait pas et tout. Où là, vraiment, on a vraiment mis le paquet niveau accompagnement psychologique.
Donc à ce moment-là, t'es retournée voir ta psychologue à un rythme plus soutenu?
Ouais, c'est ça. Du coup, ma psychologue, je la vois une fois par semaine. Là, en fait, c'est surtout dans l'accompagnement parent-enfant qu'on a eu dans le centre médico-psychologique, où là, vraiment, on a eu... Donc j'avais ma psychologue une fois par semaine, plus ce centre une fois par semaine, plus ma psychiatre. Et ce qui fait que j'ai pu verbaliser le plus possible tout ce que je ressentais. Je me souviens d'une séance en particulier au centre, donc on était tous les trois avec Adrien et Samuel, où là j'ai pu sortir toute cette souffrance, vraiment exprimer le fait que j'étais arrivée à un point où j'avais l'impression que ça n'irait jamais mieux, quoi. Et le fait d'avoir pu parler, verbaliser les choses, verbaliser ces émotions, même les plus indicibles, au final, ça m'a vraiment permis d'aller de l'avant.
Et au niveau du travail, donc tu me disais que tu avais été arrêtée. T'as été arrêtée combien de temps en tout et pour tout? Quand t'as repris
En tout, du coup, donc vraiment sans travailler du tout, je sais plus, je crois que c'était 4 mois. Et après 3-4 mois aussi de mi-temps thérapeutique. Et en fait, bizarrement, le moment où j'étais le plus mal, à ce moment-là, je travaillais. Parce que finalement, le travail m'offrait une échappatoire. Autant dans les premières phases de ma dépression, j'avais vraiment besoin de me recentrer sur moi, de me reposer aussi, parce que j'étais hyper fatiguée. Autant dans ce moment-là, j'avais besoin aussi de rester active, de rester connectée aussi à la société, pour pas sombrer trop profondément dans mes pensées sombres.
Et est-ce qu'on t'a fait des remarques au travail par rapport à ça, même quand t'étais en temps partiel ou tout
Non, pas du tout. Et j'ai eu de la chance, j'avais une équipe, parce que j'ai quitté mon travail, extra, vraiment. J'ai jamais caché mes difficultés, ils ont toujours su que j'étais en arrêt pour cause de dépression postpartum. Quand j'ai repris en mi-temps thérapeutique, on a vraiment fait en sorte de bien le respecter, de bien alléger mon emploi du temps. La reprise s'est fait vraiment progressivement. Et je pense que justement aujourd'hui, il faut être transparent, quoi. Enfin, parce que c'est comme ça qu'on entendra de plus en plus parler de ces pathologies et qu'elles seront de plus en plus acceptées. Et que les entreprises feront en sorte d'accompagner correctement les gens qui en souffrent.
Et justement, pendant cette période, t'as jamais croisé quelqu'un qui avait eu la même pathologie?
Non, pas du tout.
Non. À ton avis, selon toi, comment est perçue encore aujourd'hui cette difficulté d'une femme à devenir maman, tout simplement?
Je pense que c'est encore difficile d'en parler. On voit depuis quelques jours qu'on parle de plus en plus des difficultés physiques du postpartum. Moi, j'espère que le débat va s'ouvrir de plus en plus sur les difficultés psychiques et émotionnelles. Parce que oui, ça reste difficile d'admettre qu'on puisse être malheureuse au moment où la société attend de nous qu'on soit heureuse. Ça reste difficile aussi pour beaucoup de comprendre que c'est une maladie. J'échange avec beaucoup de mamans sur Instagram qui viennent me dire « mais j'ai tellement honte de ce qui m'arrive ». Mais en fait, elles ont toujours besoin d'être rassurées et qu'on leur explique que « ben non, c'est pas de ta faute, t'en fais pas exprès d'être dans cet état-là ». C'est vraiment une maladie. Enfin, on peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir une gastro. Ben, on peut pas non plus reprocher à quelqu'un d'avoir une dépression.
Et justement, c'est la création de ton compte Instagram, dont tu parles beaucoup de toute ton expérience. C'était nécessaire pour toi? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter avec ton compte Madame Morgane?
Ouais, effectivement, donc quand j'ai commencé à vraiment aller mieux, vraiment sortir bien dans mes baskets, j'ai ressenti cette urgence d'en parler. Donc déjà, j'ai commencé à en parler autour de moi, à tout le monde. Plus de secrets, plus de tabous sur ce qui m'était arrivé. Et après, je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse de cette dépression quelque chose d'utile. Et donc là, voilà, ce qui m'est venu, c'est de me dire, bon bah ok, je vais en parler sur Instagram. En me baladant un peu dans les hashtags dépression postpartum, je voyais qu'on n'en parlait pas beaucoup à ce moment-là. Et puis aussi, je pense que l'écriture a un effet thérapeutique. Donc moi, voilà, je savais que ça allait mieux, je savais que à ce moment-là, j'allais bientôt finir les antidépresseurs. Mais je pense que j'avais aussi besoin de tourner définitivement la page en écrivant, en fait, ce qui m'était arrivé. Et en le partageant aussi avec d'autres mamans. Et aussi, j'avais vraiment envie qu'il n'y ait plus une seule maman qui se sente seule, comme je m'étais sentie seule pendant ma dépression.
Et tu as été surprise du nombre de témoignages que tu as reçus suite à tes posts?
Ouais, hyper surprise. Je me souviens, le premier message privé d'une maman qui m'a écrit, qui, elle, était à un moment complètement dans la tourmente. Je m'y attendais pas, en fait. Je m'attendais pas à ce qu'on vienne se confier à ce point-là à moi. Et donc là, ben voilà, j'ai pu trouver les bons mots, j'ai pu l'orienter aussi, ben, par exemple, vers l'association Maman Blues. Et ce qui est trop cool, c'est qu'il y a quelques semaines, cette maman est venue m'écrire pour me dire « Morgane, ça va tellement mieux. Ouais. Merci beaucoup, tu as trouvé les bons mots, tu m'as aidée. » Et là, je me suis dit ben, « ça y est, c'est réussi, quoi, mission accomplie.
Ouais. » En fait, toutes ces femmes dont toi, vous êtes complètement isolées quand il y a une dépression postpartum. Et le fait de toutes se retrouver, d'en parler librement, ça aide à avancer, tu penses?
Ouais, je veux vraiment rompre la solitude dans cette pathologie. Je pense qu'on a toutes tellement à s'apporter. Et qu'il y ait dépression ou pas, en fait, la maternité est une période tellement intense psychologiquement. On sait maintenant que le cerveau de la jeune maman se transforme. Donc, si on pouvait toutes être bienveillantes les unes envers les autres, je pense qu'on a tout à y gagner.
Et alors, aujourd'hui, donc, plus d'antidépresseurs depuis 2 mois.
Oui.
Comment tu te sens par rapport à ta maladie? Est-ce que tu as des peurs? Est-ce que...
Ouais, je pense que j'aurai toujours une petite partie de moi. C'est une petite cicatrice qui restera, qui s'estompera avec le temps. Mais une petite peur, oui, que ça revienne peut-être un jour, que Samuel reste marqué de ce qui nous est arrivé. Mais je pense que voilà, on avance les uns et les autres. Aujourd'hui, cette dépression, je la vois aussi comme un cadeau. Je pense que j'ai appris à mieux me connaître. J'ai appris à dire mes émotions, j'ai appris aussi à reconnaître mes besoins. Donc je sais aujourd'hui que j'ai besoin des fois de calme, de solitude, et que en fait m'octroyer ce genre de moment fait pas de moi une mauvaise mère. Donc j'ai appris aussi à mettre la culpabilité maternelle un peu de côté, et du coup voilà, tout ça je pense qu'aujourd'hui voilà, c'est un cadeau que m'a apporté cette dépression. Et puis il y a aussi cette envie de vivre 1000 fois plus forte qu'avant. J'ai plus envie de passer à côté de ma vie.
Tu penses que tu passais à côté de ta vie à quel moment? Avant d'être maman ou
ouais. T'étais plus maternité? Je pense que j'étais pas forcément moi-même tout le temps. J'ai découvert en fait grâce à ma dépression que j'étais hypersensible. Je pensais que c'était une tare. Et en fait non, j'ai juste découvert que c'était ma personnalité, enfin que j'étais comme ça. Et aujourd'hui je le vis bien. Et je pense aussi que j'étais pas forcément là où je devais être professionnellement. Et qu'aujourd'hui, tout ce chemin me mène là où je dois aller. Alors, je sais pas encore où c'est exactement, mais je sens que je suis sur la bonne voie en tout cas.
Et est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à des mamans qui peuvent traverser cette période, des symptômes qu'on peut reconnaître, communiquer, tu disais que c'était hyper important.
Oui, pour moi il faut vraiment en parler, il faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide. Donc pour ça, je le redis, il y a l'association Maman Blues, vraiment pas hésiter à les contacter. Ensuite, en termes de symptômes à reconnaître, il y a une tristesse profonde, il y a une fatigue énorme qui peut s'accompagner d'insomnie. Donc t'es hyper fatiguée mais tu peux plus dormir. Des pensées qui tournent en tête toute la journée, l'impression que ça n'ira jamais mieux, la perte de plaisir dans toutes les activités de la vie. Et puis, éventuellement, c'est pas le cas pour tout le monde, le rejet de ton bébé.
Et justement, en parlant de bébé, est-ce que vous avez des projets potentiellement faire un deuxième ou justement cette expérience t'a trop marqué quel regard tu portes là-dessus?
Alors, aujourd'hui, on ne sait toujours pas si on aura un autre enfant. On s'était toujours imaginé en avoir deux, voire trois. Okay. Mais là, non. Il y a des moments où c'est un petit peu revenu quand même. Après, je voudrais pas me tromper et vouloir revivre une grossesse et non pas une maternité. Donc je pense qu'on va vraiment se laisser le temps. Moi, j'ai aussi envie vraiment de construire de plus en plus ma relation avec Samuel, de profiter tout simplement après ce qu'on a vécu.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman parisienne?
Alors, moi, je suis une maman banlieusarde. Donc, c'est une maman qui passe beaucoup de temps dans les transports et les bouchons. mais qui a plein de trucs cool à faire le week-end. On trouve toujours des bonnes petites idées, notamment sur ton compte de sorties à faire avec les enfants.
Merci. Quel est ton endroit kids-friendly préféré?
Alors, pour celles qui habitent en banlieue, je vous conseillerais la boutique Tétarine et Nufar à Antony. Une très chouette sélection d'articles responsables et des conseils au top. J'adore.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Alors, pour les projets en famille, on déménage dans quelques jours en Suède. Donc mon mari a trouvé du travail là-bas. Ça faisait un moment qu'on s'imaginait partir vivre un jour à l'étranger. Et puis voilà, quand je te parlais des cadeaux de la dépression, je pense que aujourd'hui on était prêt à se lancer dans cette expérience. Et puis en termes de projet perso, je vais avoir un petit peu de temps libre, le temps de trouver un travail. Et donc j'ai envie de me lancer dans l'écriture d'un livre sur la dépression postpartum.
Merci beaucoup Morgane.
Merci.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application préférée. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour échanger sur le sujet du postpartum abordé avec Morgane, laissez vos commentaires directement sous la photo de l'épisode 46 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.